Gloria ambrosien pour cœur d'homme, chanté par les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Bonjour à vous, Patrick Boucheron.
Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous savez nous parler ou tout de suite, on est dans l'ambiance.
Que sont donc ces hymnes ambrosiens dont vous parlez à la toute fin de votre livre La Trace et Laura, vie posthume d'Ambroise de Milan? Enfin, en tout cas, vous en parlez longuement tout au long de ce livre, mais vous terminez justement sur ce souvenir musical, pourrait-on dire, ce souvenir chanté de qui était Ambroise de Milan, évêque du 4e siècle de Milan.
Oui, j'essaie d'écouter les hymnes en essayant de me poser cette question, qu'est-ce qu'on entendait par là, au fond? Bien sûr, ce sont des chants religieux, c'est de la liturgie, j'étais pas, comme historien de la ville, vraiment armé pour traiter cette question, mais en même temps, la question que je devais traiter, c'était effectivement, vous l'avez dit, un souvenir disputé, celui d'Ambroise de Milan, évêque d'une des plus grandes capitales de l'Empire d'Occident, qui, à partir de 374, lutte et pour lutter, eh bien, prend toutes les armes à sa disposition, en particulier une façon de construire une communauté émotionnelle, ce sont les hymnes. Et il a rédigé des hymnes, et il les a fait chanter.
Alors ces hymnes, ils sont 40 dans une sorte de corpus médiéval, mais aujourd'hui quand on y travaille plus sérieusement avec les chercheurs qui s'intéressent à cette façon de chanter, cette liturgie médiévale du tout début de l'époque médiévale ou de la fin de l'Antiquité tardive, eh bien ils disent qu'il y en a un peu moins, peut-être une dizaine, une douzaine.
Une douzaine, entre 12 et 14,
voilà.
Oui.
Mais néanmoins, ils ont été inventés, expliquez-vous, dans votre livre La Trace et Laura, au moment d'une crise.
Une crise profonde,
une crise de la translation, pourrait-on dire, non pas de l'Empire, mais de la translation d'un pouvoir qui était le pouvoir gréco-romain des empereurs, à un pouvoir depuis quelques dizaines d'années à ce moment-là devenu chrétien sous Constantin. Et la translation, effectivement, de ce pouvoir est marquée par la création de ces hymnes. On raconte que c'est parce qu'il était enfermé avec ses fidèles dans une basilique
assiégée par les Goths qui eux-mêmes étaient armés par l'empereur. Et cet empereur, effectivement, il défendait son droit impérial à intervenir dans le dogme. Et Ambroise, lui, c'est le grand séparateur. Il est en train délimiter, au fond, le domaine de Dieu, c'est-à-dire le sien propre aussi, en tant qu'évêque. Il veut gouverner. Mais c'est une autre manière de gouverner. Et justement, rassemblé par une communauté émotionnelle, charmée aussi, parce que ces hymnes sont des chants, et sont des chants au sens de la poésie romaine, c'est une manière de faire corps. Mais vous avez raison, Emmanuel, effectivement, la grande question, c'est celle de ce 4e siècle qui est, au fond, davantage qu'une rupture, une bascule. Si on aime l'histoire spectacle, l'effet péplum, alors on se dit Constantin est converti, c'est terminé, l'Empire devient chrétien.
Mais pas du tout.
Mais pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus
douloureux
que ça. Et ça
bagarre jusque dans ces années de Saint-Ambroise de Milan.
Et même après, avec la bataille d'Andrinople, etc. Parce que la question, au fond, c'est que les païens sont... Il y a la grande affaire Simac, on en parlera peut-être. Je sais que vous aimez bien Simac.
Ah, j'aime bien Simac. Hein,
vous aimez bien Simac. Voilà. C'est le dernier païen, et c'est une manière aussi, Valérie, de se souvenir de notre ami de Pierre Chuvin. Il y a vraiment une question à ce moment-là. C'est passionnant, dit l'Antiquité tardive, qui est qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Au début, c'est simple, être dans une secte minoritaire, tout le monde sait faire, si j'ose dire. Mais quand, effectivement, cette religion prend le pouvoir, alors se pose une question d'identité Robert Marcus l'a admirablement bien montré. Et moi, je chemine dans ce livre, vous avez fait allusion à Jacques Fontaine, à ces grands érudits, avec une bibliographie immense. Il chemine effectivement modestement.
Peter Brown.
C'est quand même extraordinaire. Et dans son livre, son dernier livre, à travers le chat d'une aiguille, eh bien, il décrit cette église qui est en proie à tous les problèmes, au fond, qui sont ceux, non pas seulement de l'église, mais au fond, du pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport à la pauvreté, le rapport à l'autorité.
Le rapport à l'inscription spatiale de son pouvoir.
Et oui, parce que...
Comment prend-on le pouvoir sur une ville?
Comment on inscrit, comment on imprime. Et effectivement, c'est un grand bâtisseur aussi, Ambroise. Donc au fond, la liturgie, pour moi, c'était une manière d'aller buter dans une archéologie politique sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement des modernes, buter sur, je dirais, le socle. Et ce socle est une sorte de reste inassimilable. Et si je dis « il y a des origines liturgiques au gouvernement des modernes », ça va faire trembler tout le monde. Mais en même temps, lorsque on parle d'une élection, on va dire « onction électorale ouais. », il y a des acclamations, il y a des manifestations.
Le caractère sacré de notre monarque, dit-on.
Disons qu'il y a effectivement un reste théologico-politique dont on serait bien inconséquent de considérer qu'on va s'en débarrasser comme ça.
Alors, ce qui est fort intéressant dans votre travail sur la trace et l'aura autour des vies posthumes d'Ambroise de Milan, Patrick Boucheron, c'est que vous remontez à la source, mais que vous faites un chemin sur 1000 ans, pourrait-on dire. Les 1000 ans de Milan, c'est un jeu de mots que vous avez employé parfois. Sur 1000 ans, à 1000 ans. Mais non, faut pas regretter. C'est comme quand vous utilisez des citations des tontons flingueurs. À un moment, ça fait
là,
sourire.
Là, je ne regrette pas.
Voilà, exactement. Façon puzzle. Donc, en l'occurrence, vous, vous faites un chemin de 1000 ans autour de ce personnage d'Ambroise et de ses réinventions posthumes.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ambroise, sa vie, son œuvre, ce qu'il fait, comment il combat ce sénateur romain, préfet de Rome, qui s'appelle Symmaque, justement, qui ne veut pas voir mourir la religion des anciens.
Tout simplement.
Il ne veut pas voir mourir ce à quoi il croit. Il est païen. Il croit à l'autel de la victoire ailée, à l'autel d'Auguste.
Et il craint que, évidemment, abandonnant la déesse de la victoire, eh bien, Rome
disparaisse. Voilà. Et donc, en face de lui, il y a cet Ambroise qui dit non, il va falloir marquer le territoire d'une certaine façon, marquer le territoire par la chrétienté. Il va se combattre contre les hérétiques. Les Ariens, les Homéens, enfin ce qu'on appelle les Homéens plutôt que les Ariens, et puis il va combattre son grand héritier, pourrait-on dire, Augustin va combattre d'autres hérétiques après lui. Et donc on est dans ce moment où ça tremble, où ça n'est pas encore installé, où il faut toujours bagarrer pour empêcher le pouvoir soit du souverain, de l'empereur, soit des autres sectes chrétiennes de valider la possibilité qu'il prenne le pouvoir, justement.
Tout à fait. Et donc c'est un enjeu de pouvoir, et ça le sera de se souvenir d'Ambroise dans les siècles suivants, puisque le nom d'Ambroise va être brandi par tous ceux qui veulent, au fond, défendre leur liberté, la liberté de l'Église, puis plus tard la liberté communale contre les empereurs à partir du XIIe et XIIIe siècle, et puis ensuite la liberté de la civilisation communale au XVe siècle contre les princes. Au fond, ma question c'était aussi de savoir qu'est-ce que ça veut dire agir au nom d'eux. C'est une grave question, agir au nom de quelqu'un à l'ombre duquel on se place, des valeurs on considère comme transcendantes, qui vont nous survivre, et qu'est-ce que ça veut dire aussi de se souvenir quand ce souvenir est un combat.
Voilà. Oui, se souvenir, et puis faire revivre à la façon michelétienne parfois le mort qu'est Ambroise. On pourrait, c'est pour ça que je disais Ambroise, ou comment s'en débarrasser, ou comment ne pas s'en débarrasser. Il y en a qui veulent se débarrasser d'Ambroise tout au long de cette période de 1000 ans. Il y en a d'autres qui ne veulent pas s'en débarrasser. Puis il y a Pétrarque qui habite juste à côté et qui dit « J'habite aux confins de la ville, dans sa partie ouest, près de la basilique de Saint-Ambroise. La maison est saine, elle est située à gauche de l'église. Elle a vu sur le faîte de plomb du temple et les deux tours de la façade derrière, sur les murailles de la ville, des champs verdoyants et les Alpes couvertes de neige en cette fin d'été. Cependant, le plus beau spectacle de tous, pourrais-je dire, est un tombeau. Je ne dirai pas à son sujet, comme Sénèque parlant de l'Africain, que je présume que ce fut le sépulcre d'un si grand homme. Je dis que je le sais. Et souvent, je lève les yeux pleins de respect vers une image du saint. Sculptée dans la pierre et située tout en haut des murs, elle semble vivre et respirer, et la tradition rapporte qu'elle lui ressemble beaucoup. Cela n'est pas une mince récompense pour ma venue ici. De fait, on ne saurait exprimer l'autorité de son visage, la majesté de son expression, la sérénité de son regard. La voix seule lui manque pour que nous ayons Ambroise vivant.
Et si vous voulez le retrouver, cet Ambroise vivant, sur l'image que regardait Pétrarque, eh bien, elle orne la couverture du livre dont on parle.
Voilà.
Regarder, lever les yeux vers ce qui nous regarde, c'est une définition de Laura. Et effectivement, Pétrarque était face à ce visage qu'il pensait vivant, et c'est cela qui m'a aussi intéressé, c'est d'aller vers cette revenance, cette réminiscence que nous avons d'une certaine manière en héritage depuis l'humanisme, parce que au fond, en tant qu'historienne et historien, nous sommes vraiment profondément les continuateurs de Pétrarque, de Lorenzo Valla. Nous ne travaillons pas fondamentalement différemment. Mmh. Voilà. Pour ça que je commence plutôt au XVe siècle, à un moment, Carlo Ginzburg l'a montré avec la donation de Constantin, plus exactement sa dénonciation par Lorenzo Valla. Ben, s'invente un rapport critique au temps. Et c'est pas facile avec Ambroise, parce que regardez Pétrarque, vous avez vu ce qu'il voit, il a d'abord les montagnes devant lui, alors là c'est le Pétrarque qu'on connaît, celui de l'ascension du Mont Ventoux, et puis il a ce tombeau dont il dit que d'une certaine manière c'est le plus éloquent des monuments qu'il a face à lui, parce qu'il habite exactement face à la basilique Sant'Ambrogio, où est effectivement l'image du saint, où est le corps du saint, où effectivement Ambroise a fait l'offrande eucharistique de sa propre dépouille, et il a ancré, c'est ce que j'appelle l'occupation des sols, il a ancré effectivement la sainteté dans une géographie
milanaise.
Et puis il y a aussi le corpus, c'est-à-dire c'est la première œuvre complète qui est compilée en 1140 par le custode de la basilique Martino Corbo, et ce sont des livres que Pétrarque va lire. Et puis il y a aussi les chants. Donc il y a une sorte d'empilement, d'entassement de l'histoire.
Donc l'écrit,
dans un seul
l'oral,
lieu. L'écrit
et
l'oral.
La vision du sol, voilà. La vision de cette ville qui a été modelée par Ambroise. Ambroise a tellement modelé cette ville qu'après avoir combattu les hérétiques ou les païens, il va même inventer des corps.
Il va les inventer au sens médiéval, c'est-à-dire que, et là encore c'est assez beau, il va rêver à l'endroit où pourraient attendre des géants de l'Antiquité, Gervais et Protée, et évidemment, quand on cherche, on trouve, et il creuse, et il va au fond enrober de récits ces corps qui les attendent.
Bon, voilà, alors, qui attendent les chrétiens. Il trouve les corps. Les transplanter dans une nouvelle basilique qui n'a pas encore de relique, donc c'est formidable.
Voilà.
Ça va pouvoir devenir la relique
qui
va sacraliser ce lieu.
Qui deviendra Sant'Ambrogio parce qu'il prendra son nom. Et en fait, il fait ça sur le modèle constantinien de Rome, sur l'ensemble de Milan, qu'il entoure d'une aura de sacralité, les basiliques étant d'une certaine manière les sentinelles avancées de cette ville qui se construit comme une ville chrétienne, qui est évidemment défensivement organisée contre les forces invisibles qui pourraient l'assiéger.
Et puis, ces forces invisibles reviennent régulièrement assiéger Milan. Et c'est là où, effectivement, ces vies posthumes sont passionnantes. Patrick Boucheron, on peut dire que c'est le saint des crises. Est-ce que c'est le saint des crises de Milan, en fait, Ambroise ? C'est-à-dire, c'est celui que l'on brandit,
oui,
à chaque fois qu'il y a une crise,
qu'il y a un problème
dans la société milanaise.
À chaque fois qu'il y a un problème. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus déstabilisant par rapport à la notion de religion civique que l'on prend comme une idéologie apaisante et unanimiste où on viendrait tous nicher, communier douillettement sous, effectivement. Or, en réalité, c'est une mémoire disputée. C'est une mémoire disputée qui, d'une certaine manière, est réactivée. Vous parliez de revenants. Et c'est vrai, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux...
Il y a des histoires de fantômes.
Il y a des vraies histoires de fantômes dans ce livre, pour grandes personnes, pour adultes consentants. Comme disait Walter Benjamin aussi, et Didier Huberman qui le commente. Et quand on dit, par exemple, de Charles Borromée, qui est le dernier des nouvelles Ambroises au XVIe siècle,
oui,
le héros
de la
contre-réforme...
Grand archevêque de Milan se réinvente.
Mais on dit, oui, en fait, d'accord, il fait comme Ambroise. Mais non, il est Ambroise. C'est-à-dire que c'est Ambroise vivant. C'est Ambroise qui est proprement réincarné. Et cette puissance spectrale, en fait, du passé, c'était une manière pour moi aussi d'essayer de faire comprendre, éprouver, j'allais dire presque physiquement, ce que c'est que la durée du temps. Parce qu'on dit toujours 1000 ans, voilà, le millénaire médiéval, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire au 15e siècle
de se souvenir du 4e siècle, qu'on appellerait même pas le 4e siècle. Et quand on dit, bon allez, de toute façon, le souvenir ambrosien, c'est une réinvention carolingienne. Hein, bah, de toute façon, objectivement, il n'y a pas beaucoup de manuscrits avant le 9e siècle. On n'est pas très loin. Ah ouais, on n'est pas très loin, 5 siècles. C'est-à-dire qu'en fait, pour Charlemagne, déjà... le temps d'Augustin est enfoncé dans une épaisseur mythique qu'il n'appelle même pas l'histoire.
Et pour Aribert di Timiano, au début du XIe siècle, ou première moitié du XIe siècle, qui est aussi un de ceux qui raccommodent la mémoire de Saint Ambroise, eh bien, effectivement, pour Aribert di Timiano, on est déjà à 3 siècles ou 2 siècles et demi de cette tentative de résurrection carolingienne d'Ambroise.
Et c'est pour ça qu'il faut raccommoder, parce qu'effectivement, Umberto Eco, dans un savoureux article sur le remploi médiéval, disait qu'il y avait évidemment une métaphore architecturale, mais il y a aussi une métaphore couturière. C'est-à-dire qu'il y a des accros de la mémoire. Il faut effectivement repriser tout ça, reprendre. Ce sont des fils ténus qui sont au bord de se casser. Et c'est pour ça que moi, j'avais une question qui était en fait un dilemme narratif. J'ai passé 15 ans avec ce garçon.
Qui n'était pas votre genre au départ.
Vraiment pas mon genre. Mais bon, pourtant, il faisait des efforts. Il maigrissait, il grossissait, il se rasait la barbe, il essayait de changer d'allure. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas au fond cette chronique heurtée des Ambroises imaginaires. C'était au contraire d'essayer d'aller chercher ce qui empêche le passé de dériver trop loin de ce qu'il fut. C'est-à-dire ce qui résiste aux manipulations. Et vous l'avez dit, Emmanuel, c'est les lieux, c'est les textes et c'est les chants, en fait. Tout ce qui fait qu'on peut se souvenir de quelque chose qui a vraiment existé.
Et puis, vous vous posez une grande question, qu'est-ce que d'avoir une identité choisie? Comment choisit-on son identité? Comment cette identité n'est pas la même au 4e, au 8e, au 10e, au 14e, au 15e siècle, en l'occurrence?
Et en tentant d'avoir sur cette question une démarche qui est à la fois respectueuse, parce que c'est pas parce que on a, au fond, posé l'historicité d'une valeur qu'on en a détruit le lien affectif. Moi, j'aime sincèrement des choses dont je sais qu'elles ont une histoire, et je les aime même plus peut-être parce que je sais qu'elles sont nées, donc j'ai peur qu'elles meurent. Et donc je sais aussi que si on ne souhaite pas qu'elle meure, eh ben il faut en prendre soin. Donc l'historicité, d'une certaine manière, est une critique au fond de la tradition, mais qui sait que au fond le pire d'une tradition, c'est d'être continuée sans être discutée. Voilà. Ça, ce qui est d'ailleurs le propre du christianisme, qui est la connaissance par la glose continue. Donc bien sûr qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a que des identifications, des dynamiques d'identification. Et ce qui est assez intéressant, me semble-t-il, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a arrêté, c'est que on trouve sur un terrain relativement neutre, parce que la question c'est de savoir qu'est-ce qu'être milanais au Moyen-Âge.
Qui est milanais au Moyen-Âge?
Je pense pas que ça va me valoir cette fois-ci des torrents d'insultes sur Twitter. Mais c'est la même question, au fond. C'est la même question, c'est-à-dire quel passé commun on se bricole pour, au fond, avoir le courage d'agir, d'être ensemble, de vivre en commun.
Et c'est une question que vous posez page 329. Qu'entendaient les Milanais quand on leur disait Ambroise, ou quand ils chantaient un hymne qu'on leur disait ambrosien? C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que cet Ambroise était, par exemple, le héros du peuple? On n'en a pas encore parlé. C'était cette idée qu'il y avait, dans Ambroise, pour le peuple, la possibilité de reprendre la main, créer la commune, ou encore la convoquer quand elle avait disparu sous les princes de la fin du Moyen-Âge, et dire tout compte fait, c'est au nom d'Ambroise que nous voulons reprendre la main.
Et c'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs en tant que spécialiste de l'histoire du XVe siècle italien. Là, vous me menez jusqu'à Simac et je suis quand même assez loin de ma zone de confort. Mais j'ai pas fait exprès, c'est parce que j'ai vu surgir un souvenir au moment du danger, justement, en 1447, c'est-à-dire la révolution qu'on dit ambrosienne parce que c'est celle des Milanais qui veulent se passer de leur peuple, les princes, les Visconti. Et à ce moment-là, effectivement, ils se rassemblent sous la bannière d'Ambroise. Et je me suis dit, tiens, quel est ce souvenir? Quel est ce passé qui revient? Et très spontanément, je pensais, j'en ai fait l'archéologie et j'espérais, je sais pas ce que j'espérais, mais en fait, je croyais que ça allait m'amener au 12e, 13e siècle et que je pourrais dire que voilà, c'est un Ambroise réinventé. Mais non! En suivant le chemin des hymnes, justement, en prêtant l'oreille.
Il y a le 11e, puis ensuite il y a le 9e.
9e, et puis avec un peu d'effort, on peut arriver jusqu'au moment où Ambroise est, mais c'est vraiment lui, assiégé dans une basilique, et qu'il invente des hymnes, et que ces hymnes, il les fait chanter, et qu'on peut encore les entendre aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté au 16e? Parce que tout compte fait, vous expliquiez l'autre jour, je vous ai entendu expliquer lors d'une discussion autour de ce livre, que, eh bien, aujourd'hui, on peut, dans un match de foot, se dire ambrosien.
Surtout quand on gagne, d'ailleurs, parce que il y a deux clubs de foot à Milan, vous le savez très bien, et ce qui les met en commun, parce que quand on est interiste, normalement, on n'est pas pour l'AC Milan, sauf quand ils gagnent et qu'ils deviennent ambrosiens. Donc ça veut dire, bien sûr, qu'il y a une réactivation continue de cette histoire, une des dernières très belles représentations théâtrales de Dario Fo en 2009, prix Nobel de littérature, s'appelait L'invention de Milan, et il faisait d'Ambroise une sorte de crypto-communiste. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, et au fond, c'est vrai que moi, voilà.
Parce que quand même, on n'a pas insisté sur des caractères extrêmement...
Ah, il est très déplaisant. Oui.
Très déplaisant.
Il est très déplaisant, oui, oui. C'est le grand séparateur, et en particulier, par exemple, la question des
les
Juifs.
Les païens, les Juifs, les hérétiques.
Oui,
qui en sont dehors de l'Église.
Évidemment confondus dans la même détestation, et on est, par exemple, et ça c'est évidemment une question grave, aux origines de l'anti-judaïsme chrétien. Il y a effectivement ces prises de position terribles, lors notamment de l'incendie de la synagogue de Kalinikum, aujourd'hui la ville martyr de Syrie, Raqqa, et où il a effectivement, alors les historiens peuvent effectivement nuancer ça, mais enfin il a des mots terribles effectivement sur la pour justifier l'incendie de la synagogue, et ces textes, ils restent, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut les contourner, on peut ne pas le regarder, mais on ne pourra pas dire qu'Ambroise était un ami des Juifs. Donc, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, quand on voit que, au fond, ce que j'ai voulu montrer, c'est que, vous savez, cette blague des historiens soviétiques, on ne sait pas de quoi hier sera fait, ça ne s'applique pas au Moyen-Âge. C'est pour ça que je m'arrête au 16e. C'est que là, il y a un régime documentaire qui fait qu'on ne peut pas faire absolument n'importe quoi avec le passé. Et donc, soit on le tait, soit on le fait renaître. Et cet anti-judaïsme d'Ambroise, bien sûr qu'il va connaître des vies posthumes, on le voit lorsqu'on est face au dôme, tournez les yeux à droite, vous avez un monument qui est la maison des syndicats fascistes des années 30, et vous avez un Ambroise qui est en train de pourchasser les Ariens, dont le sculpteur a fait, comme sur la Porta Romana déjà au XIIe siècle, une représentation très ambiguë, parce que ces Ariens, ce sont aussi des Juifs.
Alors, il y a une dernière question que je voulais vous poser à propos de votre Tracé Laura, les vies posthumes d'Ambroise de Milan. Patrick Boucheron, c'est que tout livre, comme celui-ci, mais tous les autres aussi, sont des exercices de mémoire, comme faisaient ses prédécesseurs à Milan et ses médiévaux. Et on a l'impression que c'est un exercice de mémoire pour vous, c'est-à-dire que on y retrouve Walter Benjamin. Mais vous le mettez tout à la fin.
Trop présent pour être cité, comme disait Lévinas.
Jean-Louis Biget.
Oui.
Votre maître, Georges Duby, Umberto Eco, votre ami Mathieu Riboulet.
Oui.
Ils sont tous là.
Ben oui. Bien sûr, comme une sorte d'anniversaire surprise. Non, c'est toujours comment faire autrement, Emmanuel. Voilà. Il y a un moment où, quand on passe beaucoup de temps sur un sujet pour lequel on n'a pas, et c'est important, moi j'ai rien à reprocher à Ambroise personnellement, j'ai pas de compte à régler avec ce sujet, je peux pas dire j'aime passionnément, je déteste, voilà, j'ai même cette, évidemment on se confronte à des grands livres, alors il y a le Saint-Louis de Le Goff où il se débat avec son personnage. Moi ce livre, il est à la fois impersonnel parce que je cherche un terrain. Enfin, en fait, je le retrouve puisque j'ai toujours été historien de Milan. Enfin, j'ai cherché à l'être. Et au fond, quand on n'a pas de rapport personnel avec un sujet, il reste le plus intime qui est l'écriture. Et c'est aussi ce que je tente de montrer. Je cherche pas le vrai d'Ambroise, mais ce qu'il y a de plus intime en lui, c'est ce que faille l'histoire. Et donc, on peut en faire une histoire générale à partir d'Ambroise. Moi, ce que je voudrais, c'est écrire des livres sur l'histoire générale du Moyen-Âge. Et voilà, ça, c'est une des manières de le faire.
Merci beaucoup. Ça s'appelle La Trace et Laura, donc Vie posthume d'Ambroise de Milan chez l'Univers historique au Seuil. Et c'est sorti hier en librairie. Merci Patrick Bouchon.